Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.
Dans 2 jours, a lieu l'élection présidentielle aux États-Unis. Je pense que tout le monde est à peu près au courant. En raison de l'influence de ce pays, c'est vrai que c'est toujours un événement mondial, ces élections américaines. Et on verra bien le sort qui nous est réservé mardi. Alors, beaucoup le savent sans doute, mais aux États-Unis, après une élection présidentielle, il y a une période de 2 mois environ, pendant laquelle le président qui vient d'être élu n'est pas encore au pouvoir. Il se prépare, il ou elle se prépare. Mais c'est une période de transition, de préparation. En France, on a la même chose, mais c'est 2 semaines à peu près seulement, ça va beaucoup plus vite. Là-bas, c'est 2 mois. Ce soir, nous allons voir que pour l'apôtre Paul, la vie chrétienne est-elle aussi un entre-deux, entre déjà et pas encore. Dans les 7 premiers chapitres de la lettre aux Romains, que nous étudions depuis un certain temps maintenant, l'apôtre Paul a montré que par la venue de Jésus dans le monde, sa vie, sa mort sur la croix à notre place, sa résurrection, eh bien Dieu est intervenu dans l'histoire humaine. Il est intervenu pour délivrer des hommes et des femmes rebelles contre Dieu, perdus, et pour se réconcilier avec eux. Et au chapitre 8, qu'on a commencé à examiner la semaine dernière, Paul commence à nous parler plus précisément de cette vie nouvelle qui a commencé une fois qu'on a placé sa confiance en Jésus-Christ. Une vie dans laquelle nous ne sommes plus sous la condamnation, mais pardonnés pour toujours. C'est l'affirmation massive du verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Une vie dans laquelle Dieu lui-même nous a liés à lui pour toujours par son Saint-Esprit. Une vie dans laquelle nous sommes appelés à vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu et avec Dieu. Alors tout ça, c'est magnifique à entendre. On est dans un des chapitres les plus connus et les plus beaux, on pourrait dire, du Nouveau Testament. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons par expérience que Notre cheminement avec Dieu n'est pas toujours facile, loin de là. Il y a et Mehdi en a parlé d'ailleurs dans son témoignage tout à l'heure. Il y a des moments où c'est difficile de s'accrocher à ces magnifiques promesses. Parce qu'au quotidien, bah, c'est dur. Entre lassitude, parfois, doute, épreuve en tout genre. Et l'apôtre Paul n'ignore rien de ces souffrances dans la vie chrétienne, mais il nous rappelle justement que nous sommes dans un entre-deux, entre l'assurance de ce que nous avons déjà reçu en Jésus-Christ et l'espérance de ce que nous attendons encore pour l'avenir. Et ce seront nos deux temps de réflexion ce soir, l'assurance du déjà, l'espérance du pas encore. Donc l'assurance du déjà d'abord. Au début de notre texte de ce soir, l'apôtre Paul commence par clore une question qui l'a beaucoup occupé dans les deux derniers chapitres et qui est en gros celle-ci. Est-ce que le pardon de Dieu, le pardon que Dieu a offert en Jésus-Christ, est-ce que finalement c'est un passe-droit pour vivre comme bon nous semble et de continuer à désobéir à Dieu? Finalement, Dieu nous a pardonné, donc bah, finalement on peut faire ce qu'on veut. Et Paul répond une fois pour toutes ici, il l'a déjà bien développé dans les chapitres précédents, non. Nous avons une dette, verset 12, mais pas envers notre nature propre. Autrement dit, oui, nous avons été libérés, mais ce n'est pas pour retourner à la captivité de notre ancienne situation de pécheur. On ne va pas utiliser la liberté pour retourner faire le mal, pour retourner vivre sous l'oppression d'une vie sans Dieu. Vous avez sans doute vu aux infos que récemment, 21 des 276 jeunes lycéennes de Chibok au Nigeria, kidnappées par la secte Boko Haram il y a 2 ans, ont été libérées et rendues à leur famille. Alors c'est un petit nombre par rapport à l'ensemble, il y a encore des tractations pour que d'autres soient libérées. Mais imaginez notre réaction si nous apprenions que l'une d'entre elles, après cette libération, eh bien, profite de cette nouvelle liberté pour retourner de son plein gré en captivité auprès de Boko Haram. Et on se dirait, mais c'est pas possible. Comment peut-on profiter de la liberté pour retourner à l'oppression? Eh bien, de même, insiste l'apôtre Paul, la libération que nous avons connue en Jésus-Christ, nous ne devons pas l'utiliser comme excuse pour vivre n'importe comment, elle nous a été accordée pour vivre une vie nouvelle avec Dieu. Mais maintenant, c'est bien joli, mais cette vie nouvelle, comment la vivre au quotidien? Comment la vivre au quotidien? Et en particulier, lorsque nous faisons face aux souffrances et aux frustrations de la vie et aux tentations. Et bien pour l'apôtre Paul, il y a une chose qui est claire, c'est que ce n'est pas par nos propres forces et ressources qu'on va réussir à y faire face. Verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les façons d'agir du corps, vous vivrez. » Vous voyez le petit jeu de mots un peu de Paul là. « Vous allez mourir si vous vous laissez aller à votre nature propre, mais si vous faites mourir par l'esprit les façons d'agir du corps, vous vivrez. » Alors, c'est un langage très fort et qui peut nous surprendre. Mais quand on le place dans le contexte de tout ce que l'apôtre Paul nous a dit jusqu'ici, on comprend bien ce qu'il veut nous dire. Tout ce qui a tendance à nous éloigner de Dieu, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses, tout ce qui a tendance à nous éloigner de Dieu, nous devons le combattre. Mais le combattre par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par les ressources que Dieu lui-même nous accorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, face à la tentation de désobéir à Dieu, mon réflexe ne doit pas être de rechercher en moi la force intérieure pour réussir à tenir bon, mais plutôt de me tourner vers Dieu, de lui confesser ma faiblesse et de lui dire « Seigneur, donne-moi les ressources dont j'ai besoin face à cette tentation. Aide-moi à me plonger dans ces choses que toi tu aimes, à prendre plaisir dans ta parole, à faire les choses qui te plaisent. » Et Dieu ne refusera pas une telle prière. Il ne va pas nous dire « Non, je n'ai pas envie de t'aider à mieux vivre comme je le souhaite. » Et Jésus d'ailleurs nous l'a promis. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Jean 16, 23. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » C'est un verset qui est souvent mal compris, mais la clé pour le comprendre justement, c'est cette petite expression « en mon nom ». Tout ce que nous demandons pour vivre cette vie que Jésus nous demande de vivre, il nous l'accordera. Et je crois que c'est cela que Paul veut dire lorsqu'il parle de faire mourir les manières d'agir du corps, verset 13. Il ne s'agit pas d'une sorte de pugilat spirituel, mais plutôt d'une recherche consciente et persévérante des choses que Dieu aime et d'un détournement volontaire des choses qui nous éloignent de lui. Donc ça demande véritablement un effort, mais on va puiser cela dans les ressources que Dieu nous donne. Si quelqu'un a passé sa vie entière à manger des kebabs et des McDo sans jamais rien manger d'autre, ce seront sans doute les seuls aliments, un peu sur l'écran radar de cette personne, les seuls aliments qui lui paraîtront désirables dans un premier temps. Et si on sert à cette personne un bon repas gastronomique, il n'en aura pas forcément envie. Mais si peu à peu on l'habitue à une alimentation savoureuse et saine, eh bien ses goûts vont, on peut l'espérer, commencer à changer. Et il commencera à voir les effets de ce changement dans sa vie. Et plus ça ira, moins on peut penser qu'il aura le désir de manger des kebabs et des McDo à répétition, et plus il désirera ces choses nouvelles, ces choses meilleures. Alors, l'exemple vaut ce qu'il vaut, parce que de temps en temps, un kebab, un Big Mac, je ne suis pas contre, mais on se comprend. Et bien de même, vivre par l'esprit, ce n'est pas essayer d'éteindre nos désirs, mais plutôt de les porter sur des choses qui sont vraiment désirables aux yeux de Dieu. La vie chrétienne, c'est en quelque sorte une éducation continue par laquelle nous recherchons les choses qui plaisent à Dieu et où notre volonté et nos actions changent progressivement pour mieux refléter cette vie nouvelle que Dieu nous appelle à vivre. Et oui, il y a des souffrances et des épreuves, mais notre relation avec Dieu et cette relation qui nous est donnée de vivre par le Saint-Esprit, elle a déjà tout changé. Mais Paul va encore plus loin. Et je voudrais qu'on écoute bien ces versets qui sont tellement magnifiques et importants. On n'est pas loin, là, en quelque sorte, du sommet du message biblique. Verset 14. « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Dieu n'est pas seulement notre libérateur, il n'est pas seulement notre maître, il est notre Père. Et en nous liant à lui par le Saint-Esprit, il nous introduit dans une relation filiale avec lui, au point où nous pouvons, comme Jésus le faisait régulièrement, nous adresser à Dieu en lui disant « Abba, Père !» Abba, c'était un mot de la langue maternelle de Jésus, l'araméen, une langue proche de l'hébreu. Et le sens de ce mot, alors il y a des théologiens qui ont énormément discuté sur le sens précis de ce mot, en gros, c'est quelque part entre papa et mon père. C'est-à-dire, c'est pas un terme strictement enfantin, mais c'est en même temps un terme qui est plein d'affection et d'intimité. Alors pourquoi est-ce que cette image filiale, elle est si importante? Eh bien parce qu'elle exprime des choses essentielles pour bien comprendre notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être les enfants adoptés de Dieu? D'abord, ça veut dire que nous avons un accès privilégié à lui à chaque instant. Si vous voulez prendre rendez-vous avec le président de la République, vous appelez l'Élysée un jour, vous demandez un rendez-vous avec M. Hollande, ça risque d'être très difficile, je suis désolé de vous le dire, ça risque d'être très compliqué. Maintenant, si c'est son fils ou sa fille qui l'appelle et qui demande à le voir, eh bien, ça sera complètement autre chose. Il y a un accès privilégié là qui fait que ça ne rentre pas du tout dans la même catégorie. Si nous sommes les enfants adoptés de Dieu, nous avons accès à lui à chaque instant, par le Saint-Esprit, plus encore qu'un père humain. Et cette relation privilégiée s'exprime notamment par la prière, comme on le verra dans un instant. Donc la relation filiale, elle exprime cet accès libre et permanent. Mais elle exprime aussi la fidélité et la sécurité. Dans une bonne relation entre un père ou une mère et ses enfants, il y a cet amour inconditionnel qui fait que, quoi qu'il arrive, l'enfant ou l'enfant devenu adulte sera accueilli et aimé, quoi qu'il arrive, et pour toute la vie. Et la relation filiale, enfin, elle exprime l'affection. C'est aussi pour ça qu'elle est tellement précieuse, cette image dans la Bible. L'affection. Quand je pense à mes deux filles, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas besoin de calculer ou de négocier mon affection pour elle. Je n'ai pas besoin de me dire, oulala, il va falloir que je sois affectueux, comment faire? Non, ça vient très naturellement. Ben de même, l'amour de Dieu n'est pas un concept abstrait, mais un amour puissant, affectueux et intime. Et Paul va souligner un exemple de cette intimité qui est la prière. Et on voit ça au verset 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. On a déjà vu que c'est Dieu qui nous donne les ressources dont nous avons besoin pour vivre cette vie avec lui. Eh bien, l'apôtre nous donne ici un exemple saisissant de cela. Il nous dit que même si nos prières sont défaillantes, même si nos prières sont confuses et qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous. Et ça, c'est incroyable de dire ça. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Ça veut dire que mystérieusement, Dieu prie Dieu pour nous. Et nous avons la garantie, nous dit Paul, que le Saint-Esprit, qui connaît parfaitement la pensée de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu, dans le mystère de la Trinité, le Saint-Esprit qui connaît parfaitement la pensée de Dieu, eh bien, il demandera forcément exactement ce qu'il faut. Autrement dit, Dieu nous donne les ressources, même pour communiquer avec lui. Et ça, c'est précieux pour nous de le savoir, parce que dans ces moments où on ne sait même pas par où commencer pour prier, soit peut-être parce qu'on débute tout juste dans la vie chrétienne ou qu'on n'est même pas encore sûr d'être chrétien, qu'on balbutie dans nos prières, ou bien parce qu'on passe par une épreuve tellement dure qu'on a du mal même à prier, on ne sait même pas trop par où commencer pour dire quoi que ce soit à Dieu, eh bien on peut humblement se tourner vers Dieu et lui dire « Seigneur, j'ai du mal à prier, aide-moi à prier, aide-moi à demander ce qu'il y a de meilleur à demander dans ces circonstances. » Aide-moi à mieux comprendre qui tu es, à mieux comprendre aussi ton amour, tes projets pour moi. Donc oui, la vie chrétienne n'est pas facile tous les jours, mais Dieu nous offre déjà l'assurance magnifique d'une relation vivante et permanente avec lui. Il nous invite à saisir l'assurance de ce déjà, mais il nous invite aussi à trouver une source de confiance et de joie dans notre avenir. Et c'est notre second point, l'espérance du pas encore. En tant que pasteur, assez souvent, j'ai le privilège de préparer des couples au mariage. Il y en a même dans cette pièce, mais je ne les dénoncerai pas. Et c'est toujours beau de voir le mélange de joie et d'impatience qu'ils ressentent. D'un côté, il y a déjà une relation très proche, ce n'est pas pour rien qu'ils se préparent au mariage. Déjà une relation très proche, il y a de la complicité, il y a de la joie partagée. Mais il y a l'attente de pouvoir vraiment s'unir, de pouvoir fonder un foyer, de pouvoir vivre la vie ensemble. Et souvent, cette attente, elle est difficile à vivre. Quelques mois paraissent une éternité. Il y a une tension entre ce qu'on vit déjà et ce qu'on attend encore de vivre. Et de même, pour l'apôtre Paul, la vie chrétienne est faite d'une attente joyeuse, mais difficile en même temps. Et l'apôtre va commencer à aborder ce sujet alors qu'il est en train de parler encore de notre statut d'enfant adopté. Verset 17. Il pousse un peu l'image dans le raisonnement et dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Donc Paul va jusqu'au bout de la logique de l'adoption, dit « Si nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers. Et donc nous héritons aux côtés de son fils Jésus-Christ. » Alors l'image de l'héritage, c'est une image. Et donc il ne faut pas se dire, il est en train de dire que Dieu va mourir un jour et qu'on va se partager ses biens, etc. Non, pas du tout. Ce qu'il affirme, c'est que Dieu promet de nous donner tout ce qui est à lui. Dieu promet de nous donner tout ce qui est à lui. Et ça, c'est incroyablement fort ce que dit Paul. Et ça nous rappelle une image que Jésus a employée dans la parabole des deux fils, ou qu'on appelle souvent du fils prodigue, quand le père, qui représente Dieu dans la parabole, il dit à son fils aîné, « Tout ce qui est à moi, est à toi. » Luc 15, 31. Tout ce qui est à moi est à toi. Pardon. Si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, Dieu nous promet qu'il nous assure un avenir à la hauteur de qui il est, lui. Et cet avenir pour Paul est pour nous une occasion de joie, une occasion de hâte en quelque sorte, qui nous aide lorsque nous passons par la souffrance. Verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'ai longtemps lu ce verset en pensant qu'il disait, c'est C'est, quand on les compare, il y a une énorme différence. Mais non, il dit qu'on ne peut même pas les comparer. Ce n'est même pas digne d'être comparé. Donc pour Paul, oui, la souffrance, elle est là. Mais par comparaison avec la gloire qui nous attend, avec cet avenir magnifique, eh bien cette souffrance n'est que peu de choses. Et Paul ne dit pas ça avec légèreté. Il ne dit pas ça avec légèreté. Il ne dit pas ça tranquillement au coin du feu, son iPad à la main. On l'a déjà dit, Paul était quelqu'un qui vivait la souffrance en permanence. Diffamation, persécution, emprisonnement, torture, maladie, solitude, conflit avec des proches. Tout ça, il l'a vécu. Et on le voit en lisant les Actes des Apôtres et en lisant ses lettres. Et c'est lui qui peut dire, malgré tout cela, que de telles souffrances ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Alors, quelle est cette gloire dont Paul parle? Eh bien, il nous en donne un aperçu au verset 18 à 23. Et ce faisant, il nous rappelle un enseignement très important de la Bible et qui pourtant est souvent négligé dans l'enseignement des églises évangéliques. Peut-être pas ici, je l'espère, mais souvent négligé en tout cas. Un jour, nous dit Paul, verset 21, la création sera libérée de l'esclavage de la corruption. La création sera libérée de l'esclavage de la corruption. Il y a ici une allusion au début de la Genèse, où après la désobéissance de l'homme et de la femme, de la désobéissance humaine, eh bien Dieu déclare à l'homme « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » D'après la Bible, la rébellion de l'homme contre Dieu a fait basculer la création entière dans un état de déchéance et de futilité, de corruption. Alors que Dieu avait créé la vie en abondance, eh bien, la vie, suite à la désobéissance de l'homme, suite à la révolte de l'homme, a laissé place à la souffrance, à la mort, à tout ce qui est périssable, à l'épuisement des ressources. Et ça, on en voit des conséquences chaque jour dans le monde, bien sûr. Donc, pour l'apôtre Paul, comme pour le reste de la Bible, il y a un lien entre l'état de la création et l'état de l'humanité. L'homme a fait basculer la création dans le mal, en quelque sorte. L'homme est perdu, soumis à la corruption et à la mort, marqué par le mal et la souffrance. Et de même, la création tout entière est déchue, soumise à la corruption et à la mort, marquée par le mal et la souffrance. Mais j'en reviens à cet enseignement biblique souvent négligé. Dieu a encore des projets d'avenir pour l'homme et pour le monde. Le prophète Ésaïe déclarait déjà bien des siècles avant Paul, « Il engloutira la mort pour toujours. » Dieu, bien sûr. « Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. » Ésaïe 25, 8. Et le prophète Osée allait dans le même sens aussi, « Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. » Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le projet de Dieu n'est pas de nous retirer du monde, mais de renouveler radicalement le monde et l'humanité. Non pas de nous retirer du monde, mais de renouveler radicalement le monde et l'humanité. Et c'est ce que nous dit Paul, versets 20 et 21. La création a été soumise à l'inconsistance. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. L'espérance ultime du chrétien n'est pas de vivre dans un paradis immatériel, mais de vivre dans un nouveau monde. Notre espérance n'est pas de vivre dans un paradis immatériel, mais de vivre dans un nouveau monde. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il va y avoir une soirée conférence le 19 novembre, ici, dans ces locaux, sur ce thème précis, la nouvelle création. Et le titre, d'ailleurs, c'est « Vers un nouveau monde ». Et pour vous donner une raison supplémentaire de venir, celui qui va en parler, c'est Henri Blocher, qui est, on peut le dire sans exagérer, un des plus grands théologiens du monde. Et c'est vraiment pas une exagération. Et il va venir en parler, donc ici, le 19 novembre, entrée libre et gratuite, samedi à 18h30. Donc vraiment, pas d'excuses pour ne pas noter ça dans vos agendas. Et on l'annoncera dimanche prochain également. Je reviens à mon texte. Et de même donc que le monde sera renouvelé, De même que la création sera renouvelée, l'homme sera renouvelé. Verset 23, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Alors si on n'avait que cette expression-là, la libération de notre corps, et qu'on n'avait pas tout le contexte, on pourrait mal comprendre et penser que Paul nous dit on doit être libéré de notre corps. C'est ce que pensaient beaucoup de gens à son époque, l'influence de Platon, etc. L'idée qu'il fallait être libéré de son corps. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ce n'est pas ce que l'apôtre dit. Rappelons-nous le chapitre 8, verset 11, c'était dans le texte de dimanche dernier. « Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Nous serons ressuscités, pour nous qui avons placé notre vie dans les mains de Jésus-Christ, à la suite de Jésus-Christ. Et c'est ce que le baptême également signifie. Donc ce n'est pas nous qui serons libérés de notre corps, mais c'est notre corps qui sera libéré du péché, de la souffrance et de la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit à Jean, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21, verset 5. « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Voilà quelle est notre espérance. Que Dieu fasse toute chose nouvelle. Et cette vérité, elle est précieuse pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit que les bonnes choses de ce monde, les choses qui viennent de la création de Dieu, la beauté des paysages, la chaleur des relations humaines, le rire et la joie, l'expression artistique, la diversité culturelle même, tout cela aura sa place dans l'éternité. Et Paul nous dit que dans la vie présente, dans les moments de joie et dans les moments de peine, bien nous devons nous assurer que nous gardons le cap sur ce monde à venir. Verset 24, « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc il y aura un jour où on n'espérera plus parce que la vérité sera là et on en sera comblé. On verra le Seigneur face à face, comme dit Paul dans un autre texte. Mais en attendant, nous soupirons encore et toute la création avec nous. Nous avons hâte, j'espère que nous avons hâte de ce jour. Mais dès aujourd'hui, nous dit Paul au verset 23, nous avons un avant-goût par le Saint-Esprit, un avant-goût de l'avenir glorieux qui nous attend. Cette relation intime que nous vivons avec Dieu par le Saint-Esprit, elle nous permet d'avoir déjà comme un pied dans l'éternité, dans le nouveau monde. Elle nous permet de vivre un avant-goût de cela. Et comme une femme qui souffre les douleurs de l'accouchement, c'est l'image qui est utilisée au verset 22, eh bien nous comprenons que cette douleur de la vie présente, que souvent nous vivons, elle est le prélude d'une nouvelle vie qui fera bien vite oublier la souffrance du passé. Le meilleur est encore à venir. Amen.